Les cours du Collège de France, Alessandro Morbidelli, chaire formation planétaire, de la Terre aux exoplanètes.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est le dernier rendez-vous de cette année, de ce cycle de cours consacré aux météorites et aux astéroïdes qui nous renseignent sur les tout débuts de l'évolution du système solaire. Donc aujourd'hui, on avait démarré avec la ceinture des astéroïdes en expliquant quelle est sa structure qu'on observe aujourd'hui. Et aujourd'hui, en conclusion, on revient à la ceinture des astéroïdes. Déjà, à la fin du premier cours, beaucoup d'entre vous m'ont demandé « Oui, mais comment s'est formée la ceinture des astéroïdes? Est-ce que c'est une planète qui a éclaté ou une planète qui ne s'est pas formée, etc. ?» Maintenant, grâce aux renseignements que les météorites nous donnent, on peut avoir quelques contraintes en plus pour essayer de comprendre comment la ceinture des astéroïdes a pris place avec la structure qu'on connaît. Parce que finalement, les météorites nous ont appris qu'en gros, il y a 6 grandes catégories de corps différents. Déjà, la dichotomie isotopique entre les objets qui ont une nature qu'on appelle carbonée, des chondrites carbonées en termes d'anomalies nucléosynthétiques, et les objets qui sont formés d'une matière différente, qui a une nature différentes qu'on appelle non carbonées. Donc là, c'est deux grandes classes de corps qui se sont formées à deux endroits différents du système solaire à partir du matériel différent. Mais on a aussi compris que dans chacune de ces catégories, il y a deux générations d'objets qui se forment, qui se sont formés. Il y a des planétésimaux qui se sont formés vite et donc ils ont évolué thermiquement, ont fondu. Et donc là, il s'agit des corps parents, de ce qu'on appelle les achondrites. Mais il y a des planétésimaux qui se sont formés beaucoup plus tard, plus d'un million d'années de retard, et donc ceux-là n'ont pas évolué thermiquement autant à fondre, et donc sont aujourd'hui les corps parents des chondrites. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les objets qui se sont formés à partir de cette matière non carbonée que les objets qui se sont formés à partir de cette matière carbonée. Et à leur tour, pour ces objets des natures non carbonées, aussi bien pour les précoces, les achondrites, que les tardifs, les chondrites, on a vu la dernière fois, c'était le dernier cours, qu'il y a des objets qui sont oxydés, donc il y a pas mal du fer qui est oxydé, combiné avec l'oxygène. Il y a des objets qui sont, au contrario, très réduits, donc le fer est seulement sous forme métal, ce qui appelle aussi à des formations dans des conditions différentes, avec plus ou moins d'eau, ou à des températures plus ou moins élevées, comme on a discuté l'autre fois lors du séminaire de Sébastien Charnoz. Donc, si vous comptez, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories d'objets, grosses catégories d'objets. Évidemment, chaque catégorie peut encore se subdiviser dans différents types de météorites, CM, CO, CK, etc. Mais il y a au moins 6 grosses catégories d'objets qui doivent s'être formés dans des environnements différents du disque. Et pourtant, aujourd'hui, ils se retrouvent tous dans la ceinture des astéroïdes, parce que c'est une chose qui est certaine, toutes les météorites viennent d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Donc il nous faut comprendre comment on peut combiner autant d'objets différents qui ont des histoires de formation et d'évolution différentes au même endroit. Donc c'est la première partie de cet exposé. Donc commençons par cette grande dichotomie NCCC. Donc je vous rappelle, c'est une dichotomie qui est établie sur la base, bon, certes, un peu de la composition chimique, mais surtout des anomalies nucléosynthétiques. Par exemple, titane et chrome, qui montrent que les objets forment deux groupes bien distincts, avec un trou au milieu, donc une dichotomie, ce n'est pas un gradient, c'est une dichotomie. Et donc, ce qui suggère que ces objets se sont formés à partir de matières différentes. Et on avait conclu, vu qu'il y a aussi bien des achondrites que des chondrites dans chaque catégorie, que c'est pas une question temporelle, donc certains objets se sont formés avant d'autres, se sont formés au même moment, mais ils doivent s'être formés à deux endroits différents du disque, séparés par une barrière qui empêchait les matériels d'un réservoir d'envahir et s'homogénéiser avec les matériels de l'autre réservoir. Donc on avait dit que les objets carbonés doivent s'être plutôt formés dans la région des planètes géantes, au-delà de Jupiter, et les objets non carbonés plutôt en deçà de l'orbite de Jupiter, entre l'orbite de Jupiter et l'orbite et les soleils, sont malheureusement beaucoup plus de précision. Ces météorites-là sont associées spectralement à différents types d'astéroïdes, des astéroïdes qui ont des spectres plutôt carbonés, on l'avait vu lors du premier cours, donc le premier cours, hein, d'un type spectral C, P, D, donc ici tous illustrés par ces courbes plutôt bleues, alors que les objets NC viennent plutôt d'objets, d'astéroïdes de type spectral S, V, A, R, représentés par des courbes jaunes et oranges. Donc ces diagrammes vous montrent, faits par Demeo et Cary, la masse totale d'objets de chaque catégorie spectrale en fonction de la distance au Soleil. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans la ceinture des astéroïdes, les astéroïdes qui ont une nature qui semble être associée à ces météorites qui initialement donc vient des planétésimaux qui se sont formés au-delà de Jupiter, se retrouvent dans la ceinture des astéroïdes presque au même endroit où se trouvent aujourd'hui des astéroïdes dont le type spectral les associe à des météorites NC, et donc qui se sont formés plutôt dans la partie interne du système solaire. Donc il nous faut avant tout comprendre quel mécanisme de transport a permis d'implanter des objets qui initialement étaient au-delà de Jupiter dans la ceinture des astéroïdes. Les autres objets, en principe, auraient pu s'être formés dans la ceinture des astéroïdes. Alors l'idée est essentiellement celle-ci, est que quand les planètes géantes commencent à grossir, donc Jupiter, Saturne, les autres, ben, elles commencent à disperser les planétésimaux autour d'elles. Donc ici, on voit une série de temporelles, donc à différents temps, très vite, 5000 ans, 130 000 ans, 350 000 ans, 1,5 million. Donc on a un disque d'objets, un disque des planétésimaux, initialement sur des orbites circulaires, ça c'est la distance au Soleil, ça c'est l'excentricité, donc les objets se forment sur des orbites circulaires, mais dès que les planètes commencent à grossir, elles perturbent les objets proches et les envoient sur des orbites qui sont de plus en plus excentriques et écartées de la planète centrale. Donc certains objets sont envoyés vers l'extérieur, d'autres objets sont envoyés vers l'intérieur. Mais dès que les excentricités augmentent, les planétésimaux sont l'effet du frottement gazeux. Parce que sur une orbite elliptique, ils ne bougent pas du tout sur une trajectoire circulaire comme les gaz, donc leur mouvement est transverse au gaz, et donc les frottements gazeux deviennent très forts, ce qui fait que l'excentricité est amortie, et donc ces objets qui initialement deviennent excentriques, leur excentricité s'amortit, et ils tombent sur des orbites quasi circulaires, plus ou moins où était leur distance périhélique. Donc, par ces processus de dispersion par les planètes croissantes et amortissement dû au frottement gazeux, on peut prendre des objets qui initialement étaient ici et les injecter dans cette région hachurée, grise, qui est en fait la zone actuelle de la ceinture des astéroïdes. Donc, si vous suivez les couleurs, là, les couleurs représentent la distance initiale des objets au Soleil, donc les rouges, c'est plutôt des objets endogènes qui se sont formés dans la ceinture des astéroïdes, les verts, ça serait formé au-delà du bord externe, la ceinture d'astéroïdes, près de ce qui sera à la fin l'orbite de Jupiter, les bleus foncés, les bleus clairs sont formés au-delà de Jupiter, voire de Saturne, et vous voyez qu'à la fin, dans la ceinture des astéroïdes, vous trouvez les objets locaux, mais aussi des objets verts qui étaient initialement plus près de Jupiter, et encore plus important, ces objets bleus foncés et bleus clairs, donc qui était initialement au-delà de Jupiter et qui se retrouve dans la ceinture. Donc ça, c'est l'idée qui a été lancée par Raymond et Isidoro en 2017. Et donc, en principe, ça peut expliquer comment des objets CC, donc initialement devraient se former au-delà des planètes géantes, se retrouvent aujourd'hui dans la ceinture des astéroïdes. Alors, c'est une vision partiellement correcte, un peu naïve aussi, parce que, comme on a vu, il y a deux générations d'objets, mais y compris parmi les objets carbonés qui doivent s'être formés au-delà de Jupiter. Donc on a des objets différenciés et des objets chondritiques. Les objets différenciés se sont formés assez tôt. Par exemple, cet objet-là, qui est la plus grosse météorite qu'on a sur Terre, une météorite de fer, la météorite d'Oba, en Namibie. Donc c'est une météorite de classe 4B, donc des natures CC. Si on part de la chronologie de leur différenciation en noyaux mentaux et des modèles thermiques, disons, sont des objets qui se sont formés il y a 600 000 ans, près d'un million d'années, donc relativement tôt. Et alors que les chondrites carbonées, on a vu, on a regardé des CR, des CM, etc., en utilisant les chronomètres radioactifs et les modèles d'évolution thermique, on a conclu que sont toutes formées au-delà des 3,5 millions d'années, entre 3,5 et 4 millions d'années. Donc les premiers objets, j'ai vu bien qu'ils se sont formés, après les planètes étaient en formation et les ont dispersés, donc c'est tout à fait compatible avec les schémas qu'on a vus, en disque des planétésimaux, Jupiter et Saturne commencent à se former, ils les dispersent, mais ces objets-là qui se forment à la fin du disque, ben c'est clair que Jupiter et Saturne existaient déjà, hein, parce que si on doit encore commencer à former Jupiter et Saturne à 4 millions d'années, on est mal. Donc, clairement, les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure s'appliquent aux météorites, aux corps parents des météorites de fer CC, mais ils ne peuvent pas s'appliquer aux chondrites CC. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce que ces objets-là viennent de plus loin? Ils se sont formés au même temps que Uranus et Neptune, qui certainement se sont formés après Jupiter et Saturne, parce qu'ils ont accrété beaucoup moins de gaz. C'est une possibilité, on ne peut pas trop l'exclure. Est-ce qu'ils étaient dans une région pas trop affectés par la formation des planètes géantes, mais ensuite les planètes géantes ont bougé, ont migré dans les disques vers la fin de la phase du disque des gaz, peut-être aussi. Peut-être il y a une autre possibilité qui est souvent pas considérée, mais que je pense elle est très réaliste, et est la suivante, que quand vous formez les planètes, donc vous avez déjà des planètes déjà formées, les planètes changent la structure du disque des gaz. Donc ici vous avez une image vue du haut du disque avec les couleurs représentent la densité du gaz et là les ronds colorés c'est les quatre planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc qu'est-ce qu'elles font les planètes? Créent une dépression du gaz, donc une sorte de cavité dans les gaz là où leurs orbites se trouvent. Les gaz sont abondants seulement au-delà des planètes. Ici vous voyez la même chose mais plutôt une vision cartésienne. Donc, en fonction de la distance au Soleil, normalisée à la position de Jupiter, vous avez la densité du gaz. Donc, vous avez du gaz, beaucoup de gaz à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, puis vous avez ce qu'on appelle un gap, un sillon, commun aux orbites de Jupiter et de Saturne. Et après, la quantité de gaz remonte au-delà de Saturne. Et quand Uranus et Neptune se forment, ça crée encore une déplétion du gaz. Donc, vous avez un sillon un peu moins profond à la localisation d'Uranus et Neptune, et après la densité du gaz reprend plus loin. Donc, quand vous avez des poussières encore dans les gaz, comme des chondres, des choses comme ça, elles sont très couplées avec les gaz. Donc, si les gaz peuvent subsister, les poussières peuvent subsister aussi. Donc, vous pouvez avoir des poussières entre les planètes, au voisinage des planètes, là où partout où il y a le gaz, peut y avoir des poussières. Mais après, ces poussières, à un moment donné, collapsent pour former un planétésimal, hein, comme je vous ai expliqué il y a deux fois. Et dès qu'on forme un planétésimal, les propriétés des frottements avec les gaz changent immédiatement. Alors que les poussières ont un nombre de Stokes qui est très petit, donc de l'ordre d'un millième d'une période orbitale, planétésimal, un nombre de Stokes qui est des dizaines de milliers de fois la période orbitale. Et donc, s'il y a des poussières qui sont stables, par exemple ici, dès que les poussières collapsent et forment un planétésimal, les planétésimales, immédiatement, il est instable. Ce diagramme, par exemple, vous montre, tout en présence du gaz, quel est les temps de vie dynamique des objets en fonction d'où ils sont, avec les planètes placées, par exemple, à cet endroit. Donc, à chaque endroit, on a mis un planétésimal et on a vu combien de temps il faut pour que ce planétésimal soit délogé. Et vous voyez qu'il faut moins de 100 000 ans pour déloger les planétésimaux partout qu'ils soient, entre les planètes géantes et seulement au-delà de Neptune, les planétésimaux peuvent rester pendant des millions d'années, qui est la durée de vie du gaz. Donc ce qui est possible pour les chondrites carbonées, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est une possibilité, et qu'en fait ces objets se forment tardivement entre les pattes des planètes géantes, donc entre les orbites des planètes géantes, là où il y a encore un peu de gaz et des poussières, et dès que les poussières collapsent et forment un objet, l'objet n'est plus stabilisé par les frottements gazeux, il est déstabilisé immédiatement, et donc certains sont envoyés à l'extérieur, mais ceux qui sont envoyés à l'intérieur, par le biais du frottement gazeux, peuvent être capturés dans la ceinture des astéroïdes. Alors, sur la capture d'astéroïdes, bon, on peut dire okay, c'est que les astéroïdes, par ces mécanismes, sont capturés, mais il y a quand même les astéroïdes ont quand même une distribution caractéristique au sein de la ceinture des astéroïdes. Et donc, là-dessus, il y a un article très intéressant qui vient de paraître sur le journal Nature, qui cherche vraiment à comprendre la distribution actuelle des objets dans la ceinture. Et cet article conclut que, en fait, la distribution des objets capturés dans la ceinture ne dépend pas beaucoup d'où ils sont au départ. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser la distribution de ces objets carbonés pour dire « Ah, ils se sont formés plutôt entre Jupiter et Saturne, au-delà de Saturne, dans la région d'Uranus et Neptune, au-delà de Neptune. » Ce n'est pas très sensible du point de départ. Par contre, elle est très sensible à la distribution du gaz dans la ceinture au moment où ces objets sont capturés. Alors, cet article regarde des objets, des astéroïdes, qui ont des spectres compatibles à deux classes de météorites carbonées prominentes, donc les CM et les CI. Alors, les CI, je vous rappelle, c'est ces météorites qui sont faites entièrement des matrices, qui ont la composition solaire. Les CM sont un peu différents, c'est toujours des chondrites carbonées, mais contiennent des chondres, des CAI, etc. Donc, sont un peu différentes. Et donc, là, vous voyez la distribution, c'est un histogramme, donc le nombre d'objets d'astéroïdes plus grands que 100 km qui ont un spectre compatible avec les météorites CM en vert et un spectre compatible avec les météorites CI en bleu en fonction de la distance au Soleil, à partir de 2,1 unités astronomiques à 3,5, qui est l'étendue de la ceinture des astéroïdes. Et pour comparaison, en rouge, vous avez la distribution des astéroïdes de type S, que eux sont compatibles avec les chondrites ordinaires. Et ce que l'article fait remarquer est que clairement, cet histogramme vert et cet histogramme bleu sont différents. Donc, la distribution d'objets de nature CM et la distribution d'objets de nature CI sont différentes, ce qui implique que, donc, ils doivent avoir été injectés à des moments différents quand les gaz avaient une structure différente. En particulier, donc, en étudiant ce processus d'implantation, les auteurs ont réalisé que si la distribution du gaz, donc, ça, c'est le pointillé, c'est la distribution, la densité du gaz en fonction de la distance était plutôt déclinée, plutôt comme une loi de puissance. Voilà. Alors, les objets qui étaient initialement dans la région des planètes géantes, peu importe exactement où, et qui sont envoyés vers l'intérieur et recircularisés par la friction gazeuse, du fait qu'il y a beaucoup plus de gaz dans la partie interne que dans la partie externe, mais suivent un peu ces histogrammes-là. Peu importe si je viens d'au-delà de 10 UA ou en deçà de 10 UA, comme je disais, les points de départ n'est pas important. Mais donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'objets qui sont capturés près du Soleil qu'au cœur de la ceinture des astéroïdes. Et en revanche, si votre gaz a plutôt une distribution en forme de cloche, donc avec un maximum de densité, plus ou moins piqué, ben, du coup, ben, vous avez plus de gaz dans cette partie-là que dans la partie interne, et donc vous capturez préférentiellement là où le gaz est maximal. Donc vous avez plus de captures dans la ceinture des astéroïdes, moins de captures dans la partie interne. Alors, ce diagramme est un peu misleading, comme on dirait en anglais, trompeur, parce que ben, là, on a un histogramme qui s'étend même jusqu'à une unité astronomique. Alors là, après, les planètes telluriques doivent se former, et les choses ne sont pas stables, donc on ne peut pas rester là. Donc déjà, il faut gommer tout ce qui est à l'intérieur de 2,1 unités astronomiques, parce qu'il n'y a rien de stable à l'intérieur de 2,1 unité astronomique. Donc si vous gommez ça, bon, vous avez déjà des histogrammes qui sont beaucoup plus plats, quoi qu'il soit la distribution du gaz. C'est vrai que là, il y a encore plus d'objets dans la ceinture interne, 2,1, 2,5, 2,6 unités astronomiques, que dans la ceinture centrale. Malheureusement, les auteurs n'ont pas fait, c'est un vrai dommage, une simulation pendant tout l'âge du système solaire, parce que pendant l'âge du système solaire, il y a des choses qui se passent, il y a des zones qui sont faiblement chaotiques, qui donnent des diffusions, les planètes géantes, à un moment donné, changent d'orbite, donc ce qui, comme on verra, la deuxième heure, vont un peu perturber, vont beaucoup perturber la distribution des astéroïdes. Donc le fait que la plupart soient capturés dans la ceinture interne, ça ne veut pas dire qu'il devrait y avoir plus d'astéroïdes dans la ceinture interne aujourd'hui. Ils auraient pu être éliminés pendant 4 milliards d'années d'évolution, et ça, malheureusement, dans cet article, n'est pas fait. Donc, mais bon, si on croit que cet effet n'est pas très fort, j'en suis pas sûr, C'est clair que le fait que les astéroïdes qui ont un spectre compatible aux météorites SM, leur distribution pique plutôt entre 2.5 et 3.5, fait plutôt penser à une distribution du gaz de ce type plutôt qu'une distribution des gaz qui décroît en loi de puissance. Ce qui est possible, parce que finalement, il y a des mécanismes pour dépléter la partie interne du disque de gaz. Et on verra l'année prochaine, pour la formation des planètes telluriques, on doit effectivement invoquer un disque qui perd son gaz dans la partie la plus interne. Mais bon, ça, ça sera le sujet l'année prochaine. Leur conclusion est que pour capturer ces astéroïdes de type carboné, surtout dans la partie centrale de la ceinture, les gaz nécessitent d'avoir une déplétion centrale, un maximum de densité dans la partie centrale de la ceinture, ce qui a du sens. Mais après, comme justement je montrais tout à l'heure, la distribution des astéroïdes associés aux météorites SM, l'histogramme vert, est différente de la distribution des astéroïdes associés aux météorites CI, l'histogramme bleu. Donc si c'était le même gaz, ben, ça devrait être la même distribution. Donc le fait que la distribution est différente, ça veut dire que les gaz doivent avoir changé, la distribution du gaz doit avoir changé entre les moments où les météorites CM, le corps parent des météorites CM, bien sûr, ont été injectés, par rapport à quand les corps parents des météorites CI ont été injectés. Donc il y a dû avoir des injections à des temps différents. Et vu que les corps parents associés aux météorites CI ont un maximum qui est plus à l'extérieur par rapport aux corps parents des météorites CM, ça suppose que ce maximum du gaz, des densités du gaz, s'est déplacé de 2,5, de 2,7 unités astronomiques vers les 3 unités astronomiques. Donc peut-être ce qu'on est en train de voir là est que cette injection des chondrites, là on parle seulement des chondrites, hein, pas des météorites de fer CC, donc ces planétésimaux qui se forment très tard et dès qu'ils se forment sont injectés dans la ceinture, ça est en train de se faire alors que les gaz est en train de disparaître de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ce maximum de densité se déplace de la ceinture centrale vraiment vers la ceinture externe. C'est vraiment ce que ces observations semblent suggérer. Alors, dans l'article, eux, ils donnent une interprétation différente sur laquelle je reviendrai plus tard, quand on pourra la comprendre. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne l'injection des chondrites carbonées, donc planétésimaux tardifs des natures carbonées depuis la région des planètes géantes vers la ceinture des astéroïdes. Maintenant, venons aux premiers planétésimaux, donc ceux qui sont les corps parents des achondrites et en particulier les corps parents des météorites de fer. Alors là, c'est très, très mystérieux. C'est très mystérieux. Alors, je vous rappelle quelque chose qu'on a vu pendant ces cours. Donc, les météorites de fer sont des débris des noyaux des corps différenciés. Okay. Il y en a une pléthore qui correspond à de corps parents différents. Donc, il y a au moins 46 corps parents indépendants des météorites de fer. C'est énorme, beaucoup. Voilà. Et ces objets, ces astéroïdes de fer, dans la ceinture d'astéroïdes, on ne les voit pas. Donc, quand on fait des surveys spectroscopiques, on ne trouve rien vraiment de macroscopique qui soit vraiment pur fer. Il y a quelques objets comme Cyché, comme Calliope, etc. Mais ils ont toujours des signatures silicatées, donc on ne sait pas très bien comment ils sont. D'ailleurs, il y a une sonde spatiale qui va vers l'astéroïde Psyché pour les vérifier, mais ce n'est probablement pas du fer pur. C'est peut-être associé aux palasites, aux mésosidérites, mais pas vraiment aux météorites de fer. Et de toute façon, il y en a deux ou trois, et pas 46. Donc, la force est constatée que ce corps parent des météorites de fer doit être petit, de façon qu'on ne peut pas les voir ou les caractériser spectroscopiquement. Parce que détecter les petits astéroïdes, c'est encore facile, mais les caractériser spectroscopiquement, c'est très, très dur. Donc, en gros, s'ils sont plus petits d'un kilomètre, voire plus petits que 100 mètres, ben, on n'a pas de caractéristiques spectrales pour les identifier. Donc, il est bien possible que la plupart des corps de parents des météorites de fer soient petits. En fait, pas beaucoup plus grands que les météorites elles-mêmes, souvent. Donc sont très petits et ça c'est intéressant à mettre en relation avec Vesta parce que Vesta est le seul corps différencié ou partiellement différencié qui est intact de la ceinture principale. Donc on a disons encore intact et une pléthore de corps qui ont été pulvérisés jusqu'à des fragments, pour avoir des fragments qui sont seulement très très petits. Parmi les familles d'astéroïdes, donc on peut parler des familles d'astéroïdes lors de mon deuxième cours, dans les cours du professeur Nesvorny, si quelqu'un de vous l'a suivi, donc c'est ce qui reste des familles d'un astéroïde qui a éclaté dans la ceinture principale dans les derniers 3 milliards d'années à peu près, et donc on voit toute une pléthore d'objets qui sont autour de ce corps qui a explosé. Donc il y en a une bonne centaine de ces structures dans la ceinture d'astéroïdes qui sont aujourd'hui identifiées. Eh bien, toutes viennent d'astéroïdes non différenciés. Il n'y a aucune famille qui montre que les objets ont des natures différentes, comme on s'attendrait si un astéroïde différencié avait une collision catastrophique, donc il explose, on devrait voir une famille, donc bien reconnaissable à cause de la densité orbitale, dont certains objets ont une nature métallique, certains objets ont une nature basaltique, d'autres objets ont une nature de dunite, rien. À chaque fois qu'on voit une famille, on fait la spectroscopie, la famille est parfaitement uniforme et compatible avec une chondrite ou une autre. Voilà. Donc, ce que tout ça suggère est que les premiers planétésimaux, les planétésimaux qui se sont formés d'abord et qui donc se sont différenciés, avaient une très grande probabilité de fragmenter. Il y en a un seul qui est resté intact et tous les autres ont explosé. Et ils doivent avoir explosé avant la mise en place de la ceinture d'astéroïdes actuelle. Autrement, on verrait ces familles d'objets qui ont éclaté et qui ont libéré les fragments de leur noyau. Et donc, il faut imaginer un scénario pourquoi les premiers objets ont une telle tendance à se fragmenter et avant que la ceinture de l'astéroïde se mette en place. En 2006, Bodke et al. Ont fait remarquer qu'en fait, il est beaucoup plus facile de casser collisionnellement des objets s'ils sont près du Soleil que dans la ceinture des astéroïdes. La ceinture des astéroïdes, finalement, les périodes orbitales commencent à être assez longues et les vitesses plutôt lentes. Donc, ce n'est pas si facile de casser systématiquement les objets, même dans une phase où on peut imaginer la ceinture des astéroïdes avait beaucoup plus de corps. Donc, par exemple, dans cette étude, on a pris comme cible des objets des 100 km et on a regardé la fraction qui peut demeurer intacte en fonction du temps, dans les premiers 10 millions d'années, qui correspond à peu près au temps d'éclatement des corps parents des météorites de fer, selon où sont ces objets. Et donc, si on les met dans la ceinture de l'astéroïde, même dans la ceinture de l'astéroïde interne, même un peu à l'intérieur de la ceinture de l'astéroïde interne, entre 1,5 et 2 unités astronomiques, vous voyez que, tout au plus, la moitié des corps se fragmente, mais une bonne moitié reste intacte. Et les collisions ont une vitesse relativement faible, de l'ordre de 8 km par seconde. Donc, ce n'est pas si facile de pulvériser un objet et casser l'objet complètement jusqu'à son noyau. Mais par contre, si les planétésimaux sont plus à l'intérieur, sont, disons, entre une unité astronomique et demie, disons, entre la Terre et Mars, on se retrouve entre Mercure et la Terre, alors là, l'environnement collisionnel est beaucoup plus sévère parce que les périodes orbitales sont beaucoup plus courtes et les vitesses sont beaucoup plus grandes. Donc là, vous avez, par exemple, entre la Terre et Mars, 90% des objets se cassent en 10 millions d'années. Seulement 10% peut demeurer intact. Et si vous vous mettez entre Mercure et la Terre, c'est 99% des objets qui sont détruits collisionnellement en 10 millions d'années et seulement 1% demeure intact. Et les vitesses croient, deviennent plus grandes au prorata de la vitesse orbitale, donc à 10-12 km par seconde, donc ce sont des collisions beaucoup plus destructives et qui peuvent donc expliquer la destruction de ces planétésimaux et l'extraction des fragments de leur noyau. Donc cet article était un véritable précurseur, avait proposé que, alors que les astéroïdes, les chondritiques, les corps parents chondritiques se forment dans la ceinture des astéroïdes, tous les corps parents des météorites de fer se sont formés dans la région des planètes telluriques. Et ensuite, il y a des moyens dynamiques, je reviendrai, pour que certains objets qui sont initialement dans la région des planètes telluriques soient implantés dans la ceinture des astéroïdes, un peu comme tout à l'heure, on a vu que des objets de la région des planètes géantes peuvent être implantés dans la ceinture des astéroïdes. Et en plus, un avantage, parce que ces processus d'implantation sont des processus de faible probabilité, Donc, disons, imaginons, pour me fixer des idées, que la probabilité soit 1 pour 1000 pour un objet de la région terrestre d'être implanté de la ceinture des astéroïdes. Donc, si un objet reste intact, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'objets qui restent intacts, mais pour chaque objet intact, il y a une probabilité sur 1000 d'être implanté dans la ceinture des astéroïdes. Mais pour chaque objet qui est détruit, s'il est détruit en 1000 morceaux, et la probabilité d'implantation est 1 sur 1000, vous êtes sûr statistiquement qu'un fragment est implanté dans la ceinture. Donc les principes, les processus d'implantation, étant à faible probabilité, introduisent un biais en faveur des fragments des corps détruits et contre les corps qui ne sont pas détruits et restent individuels. Donc c'était vraiment une idée très convaincante qui a pris de l'ampleur dans la littérature. Jusqu'où on a découvert la dichotomie isotopique. Et là, on s'est aperçu, souvenez du cours de la dichotomie isotopique, que même les corps parents, même les météorites de fer, donc les symboles qui ici sont pleins, et ils montrent une dichotomie isotopique. Ici, dans les isotopes de molybdène, certains météorites de fer tombent bien dans les groupes des objets non carbonés, d'autres tombent dans les groupes des objets carbonés. Donc, clairement, ils ne peuvent pas tous s'être formés dans la région des planètes telluriques, parce que sinon, ils seraient formés à partir de la même matière. Donc, ça doit être plus compliqué que ce que Bottki l'a montré. Et plus récemment, c'est ce que j'ai montré la dernière fois, on a montré, Grégoire Létal a montré, que même pour les objets non carbonés, il y en a qui sont relativement oxydés, alors qu'il y a d'autres objets qui se forment dans la région des planètes telluriques, comme les obrites, les chondrites instatites, et même probablement les précurseurs de la Terre, qui sont très réduits. Donc, encore une fois, ce n'est pas possible que tous ces objets viennent de la même région, sinon ce serait identique. Et pourtant, la région des planètes telluriques semble être le seul endroit où on puisse facilement pulvériser des objets, les casser et les réduire en petits morceaux. Donc, il y a paradoxe. Donc, le seul endroit où on peut comprendre la destruction des corps parents est la région des planètes telluriques, mais leur nature nous dit que pas tout le monde peut être né dans la région des planètes telluriques. Comment on sort de ce problème? Il faut un mécanisme qui prenne les premiers planétésimaux, où qu'ils soient, et soit capable de les transporter dans la région des planètes telluriques, où ils peuvent se casser, avant de les réinjecter leurs fragments dans la ceinture des astéroïdes. Et comment faire ça? Par un processus qui est le balayage des résonances séculaires. Alors, qu'est-ce que c'est une résonance séculaire? J'en ai expliqué l'année passée, je l'ai réexpliqué au début de cette année. On y va à nouveau. Donc, les orbites de tout le monde, qu'ils soient des astéroïdes, des comètes, des planètes, ne sont pas fixes, mais tourne autour du Soleil. Donc l'objet tourne autour du Soleil sur son orbite, mais l'orbite aussi tourne autour du Soleil. Les périhélies tournent en sens anti-horologique, et la longitude du nœud tourne dans les sens horologiques. Donc par exemple, si vous prenez les systèmes Jupiter et Saturne aujourd'hui, les périhélies de Jupiter tournent autour du Soleil avec une fréquence qu'on appelle G5, et les périhélies de Saturne tournent avec une fréquence qu'on appelle G6, et les deux nœuds de Jupiter et de Saturne sont anti-alignés, et les deux tournent précesse avec une fréquence qu'on appelle S6. Bon. Les astéroïdes, pareil, leur orbite n'est pas fixe, leur périhélie tourne avec une fréquence qu'on appelle G, qui dépend de d'où se trouvent, leur demi-grand axe, leur excentricité, leur nœud aussi, voilà. En général, les astéroïdes, dans la ceinture des astéroïdes, aujourd'hui, précèdent plus vite que les planètes. Okay. Mais quand il y avait encore du gaz dans les disques protoplanétaires, il y avait en plus du frottement gazeux, mais ça nous importe peu, mais c'est égal à la gravité du gaz, les potentiels gravitationnels du disque du gaz. Et les potentiels gravitationnels du disque du gaz ralentissent la précession des orbites des astéroïdes. Ils sont immergés dans les disques de gaz. Et les rend plus lents, donc la précession des astéroïdes dans les disques de gaz est plus lente que la précession de Jupiter et de Saturne. Et ceci est vrai aussi bien si les planètes géantes étaient sur les orbites actuelles, ce qui est très improbable, mais aussi si les planètes géantes étaient en résonance, comme elles devraient l'être, parce que quand dans un disque de gaz, à cause des migrations, les planètes se calent en chaîne de résonance, vous vous souvenez mon dernier cours de la première année. Bon, si Jupiter et Saturne sont en résonance 2-1, donc à l'époque, Jupiter faisait 2 tours autour du Soleil quand Saturne faisait 1 tour, ce qui est une configuration très, très probable dans les disques de gaz, mais c'est vrai aussi. Donc, dans les disques de gaz, les astéroïdes précessaient moins vite que les planètes. Quand les gaz disparaissent, les astéroïdes précessent plus vite que les planètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant que les gaz disparaissent, à un moment donné, on a un moment magique où la précession de l'orbite de l'astéroïde est la même que la précession de l'orbite de ces deux planètes, Jupiter ou Saturne. Et quand donc les taux de précession sont les mêmes, on dit qu'on est en résonance séculaire. Donc, au fur et à mesure que les gaz disparaissent, il y a cette résonance séculaire qui se déplace et à un moment donné, chaque astéroïde de la ceinture principale devient en résonance avec la planète. Et quand ceci a lieu, une résonance séculaire entre les périhélies implique une augmentation soudaine de l'excentricité de l'orbite. Donc, ce qui se passe est ceci. Donc, c'est un article en voie de publication d'un groupe chinois. Donc, ça fait beaucoup de plaisir parce que c'est un article très sophistiqué. Et ça fait plaisir de voir que bon, la Chine, qui jusqu'à présent a investi beaucoup dans les sciences technologiques, commence vraiment à sortir des articles d'excellence, même dans les domaines des sciences fondamentales, donc son directe application économique. On dit vraiment que le pays est en plein développement. Donc ici, vous voyez ce qui se passe quand les gaz sont en train de disparaître. Donc, on est dans une phase ici où la résonance séculaire est arrivée jusqu'ici. Donc, à la localisation de la résonance séculaire, vous avez que tous les astéroïdes qui se trouvent en résonance séculaire montent en excentricité. Donc, ça, c'est l'évolution des astéroïdes qui montent en excentricité dès qu'ils voient la résonance séculaire. Mais dès qu'ils deviennent très excentriques, là, les frottements gazeux deviennent très forts et les frottements gazeux réamortissent l'excentricité et il les remet là à leur distance périhélique. Donc, il les fait, les transfère et les redépose sur une orbite circulaire ou dans la région des planètes telluriques, entre une unité astronomique et une unité astronomique et demie. Et à fur et à mesure que la résonance avance, de plus en plus d'astéroïdes sont envoyés à haute excentricité et réamortis pour être redéposés dans la région des planètes telluriques. Il se trouve que pendant que notre groupe d'amis chinois proposait cet article, nous on était en train de faire les mêmes études. Et donc je vous montre une animation de notre groupe, mon postdoc, Max Goldberg. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez les astéroïdes des planétésimaux initialement sous des orbites circulaires, ça c'est l'excentricité, ça c'est l'inclinaison en fonction du demi-grand axe, donc initialement sous des orbites circulaires et sur les plans du disque, bien sûr. Là-haut, il devrait y avoir les temps qui... Non, quelque part, il doit y avoir les temps qui sont indiqués. Donc, on va faire tourner l'animation. Regardez bien surtout les panneaux de gauche, parce que le panneau de droite ne fait rien. Et ça ne démarre pas. Non, ça ne démarre pas. Pourquoi ça ne démarre pas? Ah oui, OK. Voilà, c'est parti. Donc, pendant un moment, il n'y a rien qui se passe. Là, c'est le temps qui court. Et puis, il y a cette résonance qui arrive. Voilà, vous avez vu, tous les objets sont partis à haute excentricité, réamortis par les gaz, et ils ont été transférés de la ceinture des astéroïdes vers la région des planètes telluriques. Je peux le montrer à nouveau, parce que ça se passe plutôt vite. Voilà, donc, pendant un certain temps, rien se passe, mais les gaz sont en train d'être réduits, et donc la résonance arrive, voilà, paf, les astéroïdes montent en excentricité et sont retransférés dans la région des planètes telluriques, en inclinaison, il n'y a pas d'excitation, parce que c'est une résonance séculaire qui implique les périhélies et pas les nœuds. Donc, revenons à l'étude de nos collègues chinois. Donc, eux, ils montrent que tout astéroïde, initialement dans la ceinture des astéroïdes, selon où ils se trouvent, sont balayés par cette résonance. Ceux qui sont initialement plus loin sont balayés d'abord. Ceux qui se trouvent un peu plus proches de nous, disons vers 1 et 2 unités astronomiques et demie, sont balayés un tout petit peu plus tard. Mais tout le monde monte à grande excentricité et après l'amortissement dû au gaz les transfère dans la région des planètes telluriques. Voilà. Pendant cette phase de montée en excentricité et transfert, vous avez que les vitesses relatives des collisions montent en flèche. Donc, initialement, dans les premiers millions d'années, il n'y a rien qui se passe parce que là, tous les objets sont encore là. Mais après, dès que la résonance passe, donc que les transferts commencent, l'excentricité monte et vous voyez que les vitesses de collision montent à 10-20 km par seconde, ce qui permet une fragmentation efficace. Et les diagrammes en dessous montrent les nombres de collisions. Alors là, j'ai enlevé l'échelle parce qu'évidemment, les nombres de collisions dépendent aussi de quantité d'objets qu'il y avait. Donc il y a un certain arbitraire, mais c'est l'évolution relative. Initialement, il n'y a pas de collision du tout et pendant les transferts, il y a des collisions donc à haute vitesse. On se retrouve donc, à la suite de ce balayage de résonance séculaire, que tous les corps qui initialement étaient dans la ceinture des astéroïdes ont été transportés dans la région des planètes telluriques, entre une unité astronomique et une unité astronomique et demie. Et là-dedans, il y a les planètes telluriques qui sont en train de se former. Je vais pas trop dévoiler comment, parce que ça sera pour l'année prochaine. Mais le résultat est qu'avec les planètes telluriques qui se développent, elles aussi, comme les planètes géantes, dispersent les objets. Et dispersent les objets, certains vers le Soleil, tombent dans le Soleil, ils sont perdus, d'autres sont dispersés vers l'extérieur. Alors, ces objets-là, donc, repartent vers l'extérieur, encore une fois, sur des orbites très excentriques. Donc, ça veut dire que les vitesses des collisions, parce que les orbites sont excentriques, sont très, à nouveau très, très grandes. Donc, on a là des vitesses de collision qui peuvent même monter à 30 km par seconde, même si la moyenne est plutôt de l'ordre de 10-15. Et aussi beaucoup de collisions, un peu moins, parce qu'il y a une dispersion, donc un plus de volume, mais il y a quand même pas mal de collisions. Donc là, c'est vraiment le moment, tout ça, où on peut casser en profondeur ces objets qui se sont formés très vite. Et évidemment, on les casse, mais on n'est pas dans la ceinture des astéroïdes. Voilà, c'est dispersion dû aux planètes telluriques, envoie les objets sur une courbe de ce type qui rate la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes a plus faible excentricité. Donc on les fragmente tous à l'extérieur de la ceinture d'astéroïdes. Et après, il faut un mécanisme qui, pour certains de ces objets, donc avec une probabilité même petite, est capable de réduire les excentricités. Et du coup, si certains objets ont leur excentricité réduite, du coup, descend verticalement et s'implante dans la ceinture des astéroïdes. Et on verra dans la deuxième heure que l'instabilité des planètes géantes permet tout à fait de faire ça. Donc, on a là un mécanisme de transport de la ceinture des astéroïdes vers cette région où les choses se cassent facilement et un mécanisme de réinjection à faible probabilité qui peut permettre aux objets de se retrouver aujourd'hui, aux débris de se retrouver aujourd'hui dans la ceinture des astéroïdes. Donc pour résumer, parce que ça doit être un peu confus, donc j'ai essayé de faire un cartoon là, pour essayer d'expliquer comment on voit les choses aujourd'hui. C'est un peu compliqué, mais les données sont contraignantes, et donc elles demandent des scénarios même si compliqués pour les expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une frise chronologique, avec pas du tout linéaire, avec une cassure entre 4 millions d'années, la vie du disque des gaz et ce qui se passe plus tard. Et là, vous avez l'axe des distances. On ne sait pas exactement où les corps se forment, mais distinguons trois régions. La région des planètes telluriques, où se formeront à la fin les planètes telluriques, la ceinture des astéroïdes entre 2 et 4 unités astronomiques et, disons, la région des planètes géantes au-delà des 4 unités astronomiques. Donc, très vite, dans la première million d'années, il y a des planétésimaux qui se forment. Et, vu que ceux qui se forment vite, sont ceux qui vont fondre, différencier et devenir les corps parents des météorites de fer ou des achondrites. Et apparemment, ces corps se forment à différentes localisations. Il y a des objets qui doivent se former dans les systèmes solaires très internes, probablement près de la ligne de condensation des silicates, et sont donc des objets de nature non carbonée et réduits, parce que se forment dans un disque très chaud, il n'y a pas d'eau du tout, et la température descend doucement. Après, plus loin, on peut former des corps qui peuvent avoir encore les caractéristiques isotopiques des corps non carbonés, mais se forment plus loin, dans un disque plus froid, et donc sont plus oxydés. Donc c'est le cœur du cours de la fois passée. Alors, ça peut être la ligne des glaces, Ça peut être simplement une région qui est en deçà de la ligne des glaces, mais où la température de base était plutôt faible, 500, 600 degrés, soumise à ces sursauts de température, donc tout ce que Sébastien Charnoz vous expliquait. Et plus loin encore, on forme d'autres corps, très vite, qui, eux, ont une nature de, isotopiquement, nature isotopique typique des objets carbonés, que se forment à la ligne des glaces, si ces objets-là se forment en deçà de la ligne des glaces, ou alors ils se forment autour de certaines structures ouvertes dans les disques, si la ligne des glaces était là. Bon, c'est pas vrai. Voilà, donc on a quand même trois populations d'objets qui se forment vite, à trois endroits différents, et donc caractérisés soit par des rapports isotopiques différents, ceux-là versus ceux-là, soit par un degré d'oxydation différent, ceux-ci par rapport à ceux-là. En même temps, dans la région des planètes, des premiers planétésimaux carbonés, en partant de ces planétésimaux, on commence à former les noyaux des planètes géantes. Et dès qu'on commence à former les noyaux des planètes géantes, ces noyaux tendent à disperser les planétésimaux dans leur environnement, dont une partie est implantée dans la ceinture des astéroïdes, comme montré dans le premier diagramme, celui de Raymond de Isidoro. Et donc ces planétésimaux se retrouvent dans la ceinture des astéroïdes mélangés avec les planétésimaux locaux. Donc là, on est vers les 1,5 million d'années, 2 millions d'années. Les planètes géantes continuent de grandir, s'approchent Jupiter et Saturne au moins à leur masse actuelle, et entre-temps, les gaz sont en train de diminuer en densité. C'est le moment où cette fameuse résonance séculaire traverse la ceinture des astéroïdes, et donc tout ce beau monde, qu'il soit déjà qu'il soit local ou implanté, est transféré dans la région des planètes telluriques. C'est un diagramme que je vous ai montré tout à l'heure des Chinois. Donc tout le monde se retrouve ici, dans la région des planètes telluriques, planétésimaux locaux, planétésimaux formés dans la ceinture des astéroïdes, planétésimaux formés dans la région des planètes géantes. Un tout petit peu plus tard, dans la ceinture des astéroïdes, à partir de la poussière résiduelle, qui elle n'a pas bougé, parce qu'elle est très couplée avec les gaz, donc complètement insensible à la résonance, au balayage de la résonance séculaire, avec les poussières restantes, le chondre restant, au fur et à mesure que les gaz continuent à baisser en intensité, on forme de nouveaux planétésimaux. C'est la fameuse deuxième génération des planétésimaux dont je vous parlais les cours précédents. Et ça, ce serait plutôt les corps parents des chondrites ordinaires. Et pareillement, dans la région des planètes telluriques, on forme aussi d'autres planétésimaux tardifs qui sont un peu différents parce qu'ils se forment à partir de la poussière résiduelle de la région des planètes telluriques et pourraient être, par exemple, les corps parents des chondrites instatites. Et en même temps, évidemment, les protoplanètes telluriques commencent à se former aussi. Et vers la fin, et à cause de la formation de ces protoplanètes telluriques, ben voilà, il y a une certaine dispersion des planétésimaux, donc les collisions commencent à être nombreuses et à haute vitesse, et donc tous ces planétésimaux-là commencent à se casser en débris. Donc là, les demi-lunes, ça veut dire débris d'objets, et les codes couleurs sont cohérents. Hein, donc à partir du code couleur, vous voyez d'où vient chaque objet. Tout à la fin du disque, dans la région des planètes géantes, se forment les fameuses chondrites carbonées. Nous, on sait, elles sont formées entre 3,5 millions d'années et 4 millions d'années, et à 4 millions d'années, le disque a disparu parce qu'il n'y a plus de signature de paléomagnétisme, comme Clara Morel l'avait montré. Donc, ce sont les tout derniers objets qui se forment. Et dès qu'ils se forment, parce qu'ils se forment dans la région des planètes géantes, donc dès qu'ils se forment, ils sont instables. Parce qu'avant, les poussières sont couplées au gaz, mais dès qu'un objet macroscopique se forme, il est instable, et donc, hop, il est implanté, encore une fois, dans la ceinture des astéroïdes, où il se mélange aux chondrites ordinaires. Donc ça, c'est la photo à la fin de la disparition du disque. Beaucoup de temps plus tard, beaucoup, on ne sait pas trop combien, quelques millions d'années, dizaines de millions d'années, là, malheureusement, comme j'ai discuté l'année passée, ce n'est pas très clair, les planètes géantes, qui sont toutes formées, parce que les planètes géantes ont fini de se former avec la disparition du disque des gaz, qui sont initialement dans une configuration résonante, dans une chaîne de résonance, donc sont des résonances, donc sont plutôt proches les unes aux autres, changent d'orbite dans une phase d'instabilité. On verra un peu plus en détail plus tard exactement ce qui se fait, mais bon, voilà, il y a un changement orbital, les planètes géantes changent d'orbite. Et ceci a beaucoup d'effets. Bon, d'une part, plus ou moins au même moment, on termine la formation des planètes telluriques. On ne sait pas trop si c'est une coïncidence ou si c'est une cause-effet. Peut-être l'instabilité des planètes géantes favorise la collision qu'a générée la Lune, on ne sait pas trop. Voilà. Mais aussi, cette instabilité redistribue un peu les objets de la ceinture des astéroïdes, même en éjecte certains, donc on reste avec moins d'objets qu'on avait. Mais aussi, les objets qui sont cassés et dispersés depuis la région des planètes telluriques ont une chance de s'implanter dans la ceinture des astéroïdes. Et en même temps, des corps qui sont transneptuniens sont aussi dispersés. Certains peuvent être injectés dans la ceinture des astéroïdes. Certains se placent comme troyens de Jupiter. Et certains sont envoyés plus loin et vont dans la ceinture de Kuiper, voire dans les nuages de Oort. Donc ça, c'est à peu près les schémas sur lesquels on s'oriente aujourd'hui. On peut discuter tous les détails. Évidemment, tous les détails sont consolidés. Mais je pense vraiment qu'il faut aller, il y a une convergence, on voit les Chinois, nous, etc., vers un schéma de ce type, si on veut avoir une vision qui soit au moins qualitativement cohérente avec les données. Ça a l'air compliqué, mais bon, la nature est compliquée. Et comme je dis, il y a 6 catégories d'objets qui se retrouvent dans la ceinture des astéroïdes et aujourd'hui, et donc ce type de processus permet de le faire. Donc, ce que je propose, c'est de faire la pause 10 minutes, et dans la deuxième partie, je vais reprendre un tout petit peu sur l'instabilité des planètes géantes, faire quelques rappels, si vous ne vous souvenez pas du cours de l'année passée, mais, et détailler un peu plus les effets de cette instabilité sur l'évolution des astéroïdes et des débris de la région tellurique, et après on terminera par discutant l'environnement du Soleil naissant, l'environnement stellaire du Soleil naissant, encore une fois à la lumière des données des météorites. Donc, on a vu que l'instabilité des planètes géantes joue un rôle dans ce qui se passe dans le système solaire interne, comme joue un rôle très fort dans ce qui se passe dans les systèmes externes. On en a discuté longuement l'année passée, mais bon, pas tout le monde est obligé de suivre les cours toutes les années. Donc, je vous fais un petit résumé de quoi il s'agit et je vais me concentrer sur les effets dans les systèmes solaires internes. Donc, pourquoi une instabilité des planètes géantes? Parce que à l'origine, les planètes géantes se forment dans les disques de gaz et donc interagissent avec ces disques de gaz et donc elles migrent. Et en migrant, elles se parquent sous des orbites qui sont forcément différentes des orbites actuelles. Donc la compréhension qu'on a aujourd'hui est que les planètes, quand elles se forment, donc, commencent à migrer vers l'intérieur. Donc là, vous avez la distance à l'étoile par rapport au temps. On est encore dans les disques des gaz. Donc en rouge, vous avez Jupiter, en bleu, Saturne, en vert, Uranus, en mauve, Neptune. Donc, elle se forme quelque part, on ne sait pas vraiment où elle se forme, en fait, elle se forme aussi en migrant, mais elle migre. Et en migrant, elle s'approche, parce qu'en fait, Jupiter est la planète la plus lourde, donc c'est qu'elle bouge moins vite, parce qu'elle ouvre un sillon dans les disques. Saturne, déjà, se déplace plus vite, donc a tendance à s'approcher à Jupiter. Uranus et Neptune ont vraiment les masses qui maximisent leur vitesse de migration. Et donc s'approche de Jupiter et de Saturne. Quand les planètes s'approchent entre elles, elles se verrouillent dans des résonances des moyens mouvements, là où les périodes orbitales sont en rapport des nombres entiers. Et il y a plusieurs résonances, elles peuvent tomber, ça dépend des vitesses relatives des migrations. Et comme Philippine Griveaux nous avait montré l'année passée, dans un disque à faible viscosité, il y a plusieurs indices observationnels pour dire que les disques, à un moment donné, ont une très faible viscosité, Saturne a tendance à rentrer en résonance 2-1 avec Jupiter, donc la période de Saturne est deux fois la période de Jupiter, Jupiter fait deux tours autour du Soleil pendant que Saturne en fait un, et Uranus et Neptune, finalement, se calent aussi en résonance avec Saturne et avec eux-mêmes. Donc, par exemple, ici, Uranus va en résonance 3-2 avec Saturne. Donc, Saturne fait 3 tours pendant qu'Uranus fait 2 tours. Et Neptune va en résonance 4-3 avec Uranus. Donc, fait 4 tours. Uranus fait 4 tours autour du Soleil pendant que Neptune en fait 3. Alors, ce n'est pas des résonances uniques. Il peut y avoir d'autres résonances, mais il y a forcément résonance. Et d'ailleurs, cette rentrée en résonance fait si que la migration s'arrête. Et ça, c'est vraiment la clé de notre système solaire, explique pourquoi les planètes géantes sont restées loin et n'ont pas migré plus près du Soleil. La plupart des planètes des masses de Jupiter se trouvent plutôt une unité astronomique autour des autres étoiles. Notre Jupiter est à 5 unités astronomiques, c'est grâce à ça qu'on est ici, parce que si Jupiter était venu à notre place, ça serait vite barré, parce que Jupiter est plus grand. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui bien accepté dans toute la communauté, je dirais que c'est inévitable. Le problème est que cette configuration orbitale n'a rien à voir avec la configuration orbitale des planètes géantes aujourd'hui. Les planètes géantes ici sont très rapprochées les unes aux autres. Vous voyez, si Jupiter est à 5 unités astronomiques, Neptune se trouve à 10. Alors, aujourd'hui, Neptune est à 30, et Uranus à 20, et Saturne est à 10, et Jupiter à 5. Donc les planètes sont beaucoup plus séparées. Sortiraient même de ces diagrammes. La configuration orbitale d'aujourd'hui sort de ces diagrammes. Et en plus, là, les périodes sont en rapport des nombres entiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation de résonance entre les planètes géantes du tout. Donc, si ça, c'est la configuration orbitale que les planètes géantes, de façon naturelle, acquièrent dans un disque de gaz, ben, il faut quelque chose qu'une fois que le gaz est parti, il transforme les orbites pour les faire devenir comme les orbites d'aujourd'hui. Et ça, c'est l'instabilité des planètes géantes. Donc, l'idée est que au-delà de Neptune, donc les planètes géantes sont en résonance dans les disques de gaz, ça c'est votre disque de gaz. Au-delà de Neptune, il y a beaucoup de petits corps, ça forme un disque de petits corps assez massif totalement. Les objets individuellement ne sont pas très grands, maximum la taille des Plutons, mais tout ensemble, peut-être une vingtaine de masses terrestres. Donc à un moment donné, les gaz disparaissent jusqu'à quand les gaz sont là, les planètes sont maintenues en résonance, on ne peut pas sortir leur résonance. Quand le gaz s'en va, cette action du gaz sur les planètes disparaît et les planètes peuvent devenir instables par elles-mêmes ou en interagissant avec ces disques des petits corps. Donc là, je vous montre une animation de ce qui se passe. Il y a le temps qui tourne là-haut. Donc l'interaction entre les planètes et les petits corps commence à changer les orbites des petits corps, mais en retour, les orbites des planètes changent, et à un moment donné, les planètes deviennent instables, se rencontrent entre elles, leurs orbites se transforment, et en particulier, les planètes s'écartent, donc vous voyez, et vous voyez, par exemple, Uranus est atterri à 20 unités astronomiques, Neptune atterrit à 30 unités astronomiques, là où elles sont, et acquiert aussi une certaine excentricité. Donc Jupiter et Saturne ne sont pas exactement sur des orbites circulaires, mais sont sur des orbites légèrement excentriques, et ces mouvements, cette instabilité montrent bien ce qui s'est passé, je la montre encore une fois. Donc disparition du gaz, interaction avec les petits corps, les planètes sont tous ensemble, dès que l'instabilité a lieu, paf, les orbites se séparent et vont là où elles sont aujourd'hui. Donc l'instabilité des planètes géantes est vraiment le trait d'union entre les orbites initiales des planètes géantes, initiales ça veut dire à la fin de la vie du disque, et les orbites actuelles. C'est incontournable. Cette instabilité restructure tout le système externe, le système solaire externe. C'était l'objet de tous les cours de l'année passée. On a vu que c'est lors de l'instabilité que donc, ces disques initialement transneptuniens sont dispersés. Une partie atterrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ceinture de Kuiper. Il y a un disque dispersé qui se forme aussi, qui va entre former d'objets sur des orbites elliptiques qui ont les périhélies près de la position de Neptune, près des 30 unités astronomiques, mais l'aphélie qui peut être très loin, des centaines ou des milliers d'unités astronomiques. Certains vont tellement loin que les étoiles, le potentiel de la galaxie a perturbé leurs orbites et a formé un nuage d'objets, dont certains ont même une orbite rétrograde par rapport au Soleil, qu'on appelle les nuages de Oort. Et aujourd'hui, les comètes à longue période viennent du nuage de Oort, les comètes à courte période viennent de ces scatter disques, ou disques dispersés. Mais une partie des objets sont aussi capturés autour des planètes, comme des satellites qui tournent autour des planètes, aussi sur tout type d'orbites, prograde, rétrograde, excentrique, circulaire. Et certains aussi sont capturés comme troyens, donc objets qui partagent la même orbite de la planète, troyens de Jupiter et troyens de Neptune. Sans doute, il y avait eu aussi des objets capturés comme troyens de Saturne et d'Uranus, mais ne sont pas stables sur des temps longs et donc sont partis depuis longtemps. Donc ça, c'était en gros, en 3 minutes, le résumé du cours l'année passée. C'est qu'est-ce qui se passe dans la partie interne. Et ça, l'année passée, on ne l'avait pas vu du tout. Cette secousse, c'est une véritable secousse sismique, hein, une planète géante qui change d'orbite, c'est une véritable secousse sismique, évidemment, a un effet très fort sur la ceinture des astéroïdes. Par exemple, donc, initialement, si vous avez des astéroïdes plutôt sous des orbites circulaires et coplanaires, donc là, c'est l'excentricité en fonction de la distance, l'inclinaison en fonction de la distance, comme tout objet qui se forme, doit se former sur des objets, sous des orbites circulaires et coplanaires. Donc, disons, ça, c'est un disque, vous pouvez imaginer des chondrites, voilà, d'objets qui se forment dans la ceinture des astéroïdes. Juste avant l'instabilité, bon, certes, il y a les perturbations planétaires, donc les orbites ne restent pas parfaitement circulaires et coplanaires, mais ce n'est pas grand-chose. Et ça, c'est ce qui se passe juste après l'instabilité. Donc, vous avez vraiment une explosion de la ceinture des astéroïdes avec les excentricités et les inclinaisons qui, en gros, peuvent acquérir toutes les valeurs possibles. L'excentricité est entre 0 et 1, en étant un segment qui tape dans le Soleil. Et les inclinaisons peuvent facilement monter vers les 40-50 degrés au-dessus après c'est instable, donc les objets disparaissent. Et ici, on a identifié en rouge les objets qui sont devenus tellement excentriques qu'ils vont croiser l'orbite des planètes telluriques. Donc, sous des temps longs, tous ces objets-là doivent disparaître parce qu'ils rencontrent les planètes telluriques. Et les objets verts, par contre, sont en dessous et donc ne croisent pas l'orbite des planètes telluriques. Donc, en principe, ils peuvent survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr, ça, c'est juste l'image de la ceinture juste après l'instabilité. Après, il y a 4 milliards d'années qui passent, 4 milliards et demi d'années, presque 4 milliards et demi d'années qui passent. Donc, il faut voir les effets dynamiques à long terme. Donc, évidemment, tous ces objets rouges vont disparaître, mais même les objets verts ne vont pas tous rester, parce que dans la ceinture, il y a des résonances, les fameuses lacunes de Kirkwood, mais aussi des résonances d'ordre plus élevé, donc c'est un peu compliqué. Donc, si on simule pendant 4 milliards et demi d'années, et on regarde à la fin ce qui reste, voilà ce qui reste. Donc, en bleu, c'est les objets, donc les conditions initiales sont les points verts, enfin, tous les points, je ne me souviens plus, ce n'est pas grave. Et ça, c'est les résultats. Donc ça, c'est les objets qui initialement étaient là et qui encore existent à l'heure actuelle, donc 4 milliards et demi d'années plus tard. Et les points rouges sont les astéroïdes observés, peu importe leur type spectral. Simplement, on a pris des gros objets, donc magnitude absolue plus petite que 10, ça veut dire à peu près une centaine de kilomètres, une cinquantaine de kilomètres, juste pour être sûr de ne pas avoir des biais observationnels, parce que les astéroïdes gros sont tous connus. Et donc, vous voyez les matchs, quoi, l'accord entre la distribution obtenue et la distribution observée. Donc, le fait qu'aujourd'hui, les astéroïdes couvrent une grande gamme d'excentricité et d'inclinaison, comme j'avais montré lors du premier cours, est simplement, même si tous les astéroïdes étaient endogènes à la ceinture des astéroïdes, et on a vu que ce n'est pas le cas, mais est simplement la conséquence de cette instabilité des planètes géantes qui a mélangé les cartes. Disons. Et dans ces processus, donc, à peu près, entre ce qui se passe à l'instabilité elle-même et ce qui s'enfouit dans les successifs 4 milliards et demi d'années, en gros, on pense avoir perdu 90% des astéroïdes initiaux, qui étaient initialement dans la ceinture. Donc, 90% sont partis, et il en reste peut-être 10%. Mais ça peut changer, ça dépend vraiment de la violence, de l'instabilité, ça peut être même 99%. Voilà. Donc les objets qui restent sont une minorité des objets qu'il y avait au départ. Mais il n'y a pas que les objets endogènes donc, qui se forment dans la ceinture d'astéroïdes, on pense que c'est les chondrites ordinaires, il y a aussi les objets qui sont injectés. Donc on a terminé tout à l'heure en disant qu'il faut que ces fragments des planétésimaux qui se sont cassés dans la région des planètes telluriques soient capturés dans la ceinture des astéroïdes. Et donc, voilà les schémas. Donc, l'idée est que quand les planètes telluriques se forment, il y a aussi des planétésimaux autour d'eux. Ces planétésimaux sont dispersés. Voilà. Et quand ils sont dispersés, ils ne rentrent pas directement dans la ceinture d'astéroïdes parce qu'ils sont envoyés plus loin, mais ils sont envoyés à haute excentricité. Donc, ils ne sont pas dans la ceinture d'astéroïdes. Ils manquent la ceinture des astéroïdes. Mais lors de l'instabilité, comme les objets qui sont sur des orbites circulaires peuvent devenir excentriques, à l'instabilité, des objets excentriques peuvent devenir plus circulaires. C'est juste des changements aléatoires de l'excentricité qui vont dans un sens comme dans l'autre. Si tout le monde est circulaire, on ne peut que devenir excentrique. Mais si tout le monde est excentrique, il peut soit devenir encore plus excentrique, soit devenir plus circulaire. C'est stochastique. Et donc, certains de ces corps, au moment de l'instabilité, se retrouvent à une excentricité moindre, même des migrants d'axe, mais une petite, plus petite excentricité, et donc ils se retrouvent dans la ceinture des astéroïdes. Et ça, c'est le mécanisme d'implantation primaire d'objets qui se trouvent dans la région des planètes telluriques ou leurs fragments dans la ceinture des astéroïdes. Et ça, c'est le résultat d'une simulation numérique. Avant la stabilité, vous avez juste ce disque dispersé par les planètes telluriques qui volent au-dessus de la ceinture des astéroïdes, qui est ici en bas. Et après, vous avez l'instabilité, donc toutes ces excentricités bougent vers le haut, vers le bas, beaucoup d'objets sont éliminés, certains sont recircularisés, peuvent rentrer dans la ceinture des astéroïdes. Donc, quelle est l'efficacité de l'injection? Mais dépend de quand l'instabilité a lieu. On ne sait pas très bien. Donc, si l'instabilité a lieu très vite, c'est un peu dommage, parce que les objets qui se trouvent dans la région des planètes telluriques, ici les points noirs, n'ont pas encore eu le temps de se disperser beaucoup en des migrants d'axe en excentricité quand l'instabilité a lieu. Donc, très peu, c'est les points rouges, sont capturés dans la ceinture des astéroïdes, qui est la région assurée, et en particulier, ils s'implantent seulement dans la partie vraiment interne de la ceinture des astéroïdes. Si vous avez une instabilité plus tard, donc ça c'était pour une instabilité qui a lieu seulement 5 millions d'années après la disparition du gaz, si vous avez une instabilité plus tard, là, les objets qui étaient initialement dans la région des planètes telluriques ont eu le temps de se disperser davantage en des migrants d'axe. Et donc, quand l'instabilité a lieu, il y a plus d'objets qui descendent et donc sont plus d'objets qui sont capturés dans la ceinture des astéroïdes et à des migrants d'axe qui vont plus loin, jusqu'à la ceinture des astéroïdes externes. Et voilà, mais encore une fois, vu qu'on ne voit pas les objets implantés, parce qu'on pense que c'est les corps parents des météorites de fer qui sont petits et qu'on n'identifie pas, on n'est pas capable de dire s'ils sont tous dans la partie très interne, s'ils sont plutôt uniformément dispersés dans la ceinture, et donc on ne peut pas utiliser cette contrainte pour dire si l'instabilité a eu lieu très vite ou très tard. Peut-être si un jour, jamais on arrivera à identifier ces fameux corps parents des météorites de fer, on pourra le faire, cet exercice, mais aujourd'hui, on n'a pas les données pour le faire. En même temps, l'instabilité des planètes géantes disperse les disques transneptuniens. Donc, on a dit, capture des objets transneptuniens autour des planètes, c'est les satellites irréguliers, sur les orbites des Troyens, c'est les Troyens de Jupiter. Certains objets peuvent être capturés aussi dans la ceinture des astéroïdes. Donc, c'est des objets transneptunien capturé dans la ceinture des astéroïdes. Et là, dans ce diagramme, vous compare là où vont les objets capturés. Donc, tous ces points noirs, c'est des objets qui initialement étaient au-delà de Neptune avant l'instabilité et qui se retrouvent sous des orbites stables dans la ceinture des astéroïdes après l'instabilité, après 4 milliards d'années. Ça, c'est pour mémoire la distribution de tous les astéroïdes, peu importe leur type spectral. Donc, ces objets qui viennent au-delà de la ceinture de Kuiper, qui sont donc vraiment parentés aux comètes, aux véritables comètes, se retrouvent surtout dans la partie très externe de la ceinture des astéroïdes, au-delà de 2,8 unités astronomiques. Il y a quelques-uns, un peu vers 2,1, à l'intérieur de 2,5, mais la plupart, c'est plutôt autour des 3 unités astronomiques et dans la résonance 3-2 avec Jupiter. C'est le fameux ILDA. Donc, vous vous souvenez, les premiers cours, je vous avais dit, toutes les résonances avec Jupiter correspondent à les lacunes de Kirkwood, sauf la résonance 3-2, qui est une sorte de havre de paix où les objets peuvent exister et ne pas avoir de rencontres avec Jupiter, même s'ils sont partiellement excentriques. Eh bien, ces objets-là devraient être complètement des objets capturés depuis les disques transneptuniens, comme les Troyens, donc être en fait des comètes. Évidemment, aujourd'hui, ils ne montrent pas d'activité cométaire, parce que avec la température, l'irradiation solaire, ils ont perdu tous les volatiles des surfaces, mais on pense qu'ils ont une nature cométaire à l'origine. Donc, la ceinture des astéroïdes, pas seulement on implante les planétésimaux qui se forment dans la région des planètes géantes, comme j'ai montré tout à l'heure, mais on implante même des objets qui se forment au-delà de Neptune, une fois que les gaz ont disparu. Donc, on retrouve vraiment tout dans la ceinture des astéroïdes. C'est la véritable poubelle du système solaire. Alors, là, je reviens à cet article que j'ai mentionné, les Anderson et al. Donc, Anderson et al. Ont fait remarquer que la distribution en demi-grand axe, qui ici est montrée en mode cumulatif, Donc c'est la courbe bleue, donc ça veut dire mode cumulatif, ça veut dire ceci est la fraction de ces astéroïdes, donc les spectres compatibles avec une météorite CI, la fraction qui a un demi-grand axe inférieur à une certaine valeur. Donc la manière de lire est qu'ils sont tous au-delà de 2,3 unités astronomiques, il y en a 10% seulement qui ont un demi-grand axe inférieur à 2,7 unités astronomiques, la moitié a un demi-grand axe d'environ inférieur à 3,1 unités astronomiques, etc. Donc ça, c'est la distribution de ces objets. Et en noir, on a la distribution des objets dont les spectres les associent plutôt aux Troyens de Jupiter et donc aux transneptuniens. Et donc, ils remarquent qu'ils sont pratiquement les mêmes. Donc, ils disent, ah, donc comme ces objets-là, qui sont parentés aux Troyens, aux comètes, aux objets transneptuniens, ont été injectés une fois que les gaz ont disparu lors de l'instabilité des planètes géantes, ben alors les corps parents des météorites CI aussi, parce que c'est la même distribution. Et j'avoue, c'est plutôt frappant. Alors, moi je ne crois pas trop, même si l'analogie est frappante, parce que du coup je me demande, quid de la dichotomie CI-comète ? Donc on avait bien discuté lors du deuxième cours que les météorites CI ne sont pas des comètes. Ils ont des différences énormes dans le rapport isotopique des éléments volatiles, ils ont des différences essentielles dans l'abondance des éléments élémentaires. Par exemple, les CI sont très dépeuplés en gaz rare, alors que les comètes sont très riches en gaz rare, xénon et krypton au moins. Et donc, il y a clairement des différences. Et donc, si les corps parents des météorites CI viennent du disque transneptunien, ben, les comètes aussi viennent du disque transneptunien, comment c'est possible qu'ils soient différents? Donc, j'aime pas trop ça. Donc je préfère interpréter ça plutôt comme une coïncidence, l'idée que les corps parents des météorites CI soient formés plutôt dans la région d'Uranus et Neptune et injectés à la dernière minute alors que les gaz étaient en train de partir de la partie interne vers la partie externe. Mais bon, j'avoue que cette similarité entre les deux distributions est intrigante, mais je pense que c'est vraiment difficile de penser que les corps parents des météorites CI viennent du disque transneptunien injecté au même moment que les comètes lors de l'instabilité. Bon voilà, donc tout ça c'est ce que j'avais à dire sur la ceinture des astéroïdes. Et vu que c'est tôt, comme je prévoyais, j'ai rajouté un petit bonus. Donc ce petit bonus concerne l'environnement du Soleil naissant. J'ai rajouté parce que j'ai reçu cette question pendant cette année par certains d'entre vous sur mais est-ce que c'est vrai qu'une supernova est à l'origine de la formation du système solaire, l'onde des chocs, etc. Et là aussi, les météorites nous renseignent d'une manière incroyable sur l'environnement du Soleil naissant. Et donc, voilà, terminons là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les météorites? Les météorites nous renseignent sur l'abondance initiale de certains éléments radioactifs à courte période. On a vu dans les cours des CAI et des CONDRE qu'en regardant une corrélation entre les rapports isotopiques du magnésium 26 sur 24 et les rapports entre l'aluminium et le magnésium 24, donc une très belle corrélation dans les CAI, qu'à la formation des CAI, donc tout au début du système solaire, parce que les CAI sont les grains les plus anciens du système solaire, il y avait une certaine quantité d'aluminium 26, donc un élément radioactif à courte vie, 700 000 ans, et les rapports d'abondance entre l'aluminium 26, donc radioactif, et l'aluminium 27 est stable, étaient petits, mais bon, significatifs, 5·10⁵. Donc, on peut faire la même chose pour un isotope radioactif du fer, qui est le fer 60. Donc le fer 60 décroît en nickel 60. Donc on peut chercher des corrélations dans certains échantillons météoritiques entre les rapports entre le nickel 60 et le nickel 58 et les rapports élémentaires entre le fer 56 et le nickel 58. Et effectivement, on retrouve cette corrélation. C'est un article tout récent, fait ici à l'Institut de physique du globe, collaboration internationale. Et la pente de cette ligne, encore une fois, vous donne la valeur initiale de ces rapports isotopiques. Et on trouve ici 5·10⁻⁹, donc à l'origine du système solaire. D'autres groupes ont fait les mesures plus ou moins analogues et ils ont trouvé pardon, donc ça, non, je suis tombé. Là, c'est le rapport fer 60 sur fer 56 au moment où cette météorite s'est formée. Évidemment, donc, cette météorite, c'est un morceau de croûte d'une achondrite, je vous l'avais déjà présenté, c'est Hershech 002, est daté, donc ce n'est pas les temps zéro comme les CAI, c'est un peu plus tard. Mais donc, si on connaît la quantité du fer 60 à un moment donné, en sachant la vitesse de décroissance radioactive du fer 60, on peut remonter à la valeur initiale de ce rapport au moment où les CAI s'est formé. Les CAI ne contiennent pas de fer, donc on ne peut pas faire l'analyse dessus. Donc il faut faire de l'analyse sur des météorites plus jeunes qui contiennent du fer et remonter au rapport isotopique initial en utilisant les lois de la décroissance. Donc au moment de la formation du système solaire, la formation des premiers grains, les rapports fer 60 sur fer 56 étaient de l'ordre de 7·10⁻⁹. Et les rapports de l'aluminium 26 sur 27, c'est 5·10⁵. Soit, c'est juste des chiffres. D'autres groupes sont assez d'accord. Bon, sur l'aluminium, tout le monde est d'accord. Sur les fers, les estimations changent un peu plus. Mais par exemple, à Tang et Dofas, se trouve 11·10⁹ au lieu de 7·10⁹. Mais si vous regardez les barres d'erreur, c'est tout à fait compatible. Donc, c'est de l'ordre de 10·8. Okay. Ce qui est intéressant, et comparer ces rapports isotopiques, donc 5·10⁵ et 10·8, aux valeurs du fond galactique. Donc ce qu'on trouve, on regarde dans la galaxie, quelle est la valeur typique qu'on retrouve dans la galaxie. Et ça, on peut le mesurer, parce que la décroissance radioactive produit des rayons gamma, et donc en observant ces rayons et leur énergie, etc., on arrive à remonter à l'abondance d'éléments radioactifs dans l'espace. Et donc les fonds galactiques avec le rapport 26 sur 27 est 3·10⁶ et les rapports sphère 60 sur sphère 56 est 3·10⁷. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que notre système solaire a été plutôt exceptionnel par rapport aux fonds galactiques en aluminium, en rapport 26 sur, aluminium 26 sur 27, parce qu'on était à 5·10⁵ alors que la galaxie, les valeurs normales est 3·10⁶, alors qu'on était même appauvri en fer 60 parce que le rapport était de l'ordre de 10·8, et dans la galaxie, on trouve plutôt de 10·7. Voilà. Donc, ça, c'est un indice très fort, parce qu'il nous dit, un peu, il nous donne une idée de quel devait être l'environnement stellaire, parce que sont les étoiles que produisent à la fois l'aluminium 26 et les fer 60. Alors, les faibles rapports de fer 60 sur fer 56 excluent l'hypothèse classique que les systèmes solaires se soient formés à la suite de l'explosion d'une supernova. Dans les années 70, l'idée était qu'une supernova explose et donc il y a une onde de choc qui se propage dans les milieux interstellaires. Cette onde de choc comprime les gaz et crée des nouveaux points d'effondrement qui donnent origine à de nouvelles étoiles, de nouveaux disques, de nouvelles planètes. Ça ne peut pas être possible parce que les supernovae, en explosant, produisent beaucoup de fer 60. Et donc, on a déjà été calculé que si on prend une supernova qui doit produire ses rapports aluminium 26 ou aluminium 27 de 5·10⁵, cette même supernova produirait un rapport fer 60 sous fer 56 de 10·6 au lieu que 10·8. Okay. Donc, ce n'est pas bon, ça ne colle pas avec les données. Et, alors, parenthèse, ceci, donc le fait que les systèmes solaires ne se forment pas comme conséquence de l'explosion d'une supernova, n'est pas en contradiction avec ce que je vous expliquais sur les anomalies nucléosynthétiques avec les éléments du groupe du fer qui viennent d'explosion des supernovae. Les éléments du groupe du fer sont stables. Donc, bien sûr, ont été produits dans les supernovae, mais ont été produits par les supernovae sur l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Là, le fer 60 est un élément à courte période, et donc si on trouve du fer 60 produit d'une supernova, ça veut dire que la supernova a explosé très peu de temps avant le système solaire. Donc le fait qu'il n'y ait pas fer 60, ça nous dit simplement, non pas que nous n'avons pas d'éléments produits par les supernovas, tout ce que nous avons ici se produit dans les supernovas, mais il nous dit que l'absence de fer 60 nous dit qu'il n'y a pas eu une supernova qui a explosé juste avant la formation du système solaire. Donc, qu'est-ce qui produit de l'aluminium 26? Parce qu'on voit un excès d'aluminium 26 sans produire le fer 60. Donc, ce n'est pas des supernovae. Il y a une autre catégorie d'étoiles qui s'appelle les Wolf-Rayet, qui font l'affaire. Donc les wolf rayés sont des étoiles massives, plusieurs dizaines de masses solaires, hein, ont été découvertes à l'Observatoire de Paris en 1867. Et avant d'exploser en supernovae, après un certain temps, ils expulsent beaucoup de matières qui entourent leur noyau, et donc sous forme de vents stellaires à haute vitesse. Et ces vents stellaires à haute vitesse sont très riches en aluminium 26, donc enrichissent les milieux interstellaires en aluminium 26, mais il n'y a pas de fer 60. Le fer 60 arrivera seulement plus tard, une fois que l'étoile explosera. Donc aussi un dessin, un peu pour expliquer ce qui se passe, d'un article de Gunnel et Meinet. Donc l'idée qu'il y ait une wolf rayée, donc elle commence à souffler ce grand vent stellaire, à éjecter ses couches externes, et donc il crée une bulle de vide autour d'elle, et ce vent stellaire va cogner contre la matière interstellaire et la confine, la comprime dans une coquille sphérique qui est en expansion et qui peut faire plusieurs parsecs de diamètre. Et dans cette coquille de compression, bon, c'est un peu comme les modèles de Cameron initial avec la supernova, disons, vous avez une onde qui se propage, comprime les milieux interstellaires, les contamine, et évidemment ça favorise les collapses gravitationnels qui forment de nouvelles étoiles avec de nouveaux disques. Mais là, il ne s'agit pas d'une supernova, ça s'agit d'un processus plus long, plus graduel et moins violent. Alors ça, c'est juste un cartoon, hein, un dessin de fantasy, mais ça, c'est une simulation numérique beaucoup plus récente. Donc on a 4 temps différents, ce qui se passe quand il y a une wolf rayée, donc une étoile qui rentre dans la phase wolf rayée. Donc l'étoile est au centre, vous voyez ce qui se passe autour. Donc la partie bleue est la partie la wind bubble, donc c'est les vides qui se créent par ces vents stellaires. Et là, vous avez après, dans les différentes couleurs, ce qui se passe en matière autour. Donc les jaunes est la matière interstellaire ordinaire, non perturbée, et quand ça devient plutôt orange, rouge, c'est cette matière interstellaire qui rentre en contact avec la matière expulsée par la wolf rayée, se mélange, se comprime, etc. Et donc en fonction du temps, vous voyez qu'il y a une expansion de la bulle, et vous avez que le matériau se mélange, se compresse sur une coquille qui devient de plus en plus grande. Donc exactement comme imaginé là-dessus. Mais ce n'est pas seulement une fantaisie ou le résultat d'une simulation numérique. On a aujourd'hui des observations qui nous montrent exactement ce qui se passe. Donc ici, on a une carte où on combine plusieurs types d'observations de la même région. Donc il y a une étoile wolf rayée qui est là. Et en couleur, vous avez la densité du milieu interstellaire. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a une bulle de vide. Alors, on n'apparaît pas centré sur l'étoile wolf rayée, mais c'est une question de prospective. Donc, voilà. Et à la marge de cette bulle, vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus brillantes. Donc, ça veut dire qu'il y a une surdensité des matières interstellaires qui vient justement de l'expansion de cette bulle et de la collision avec la matière interstellaire. Donc là, il y a une surdensité des matières, et là, les croix rouges montrent des amas de poussière, donc des grumeaux de poussière qui révèlent qu'il y a des grumeaux de gaz. Là, c'est des petites poussières couplées avec les gaz, et donc là, il y a des surdensités locales du gaz qui peuvent, par effondrement gravitationnel, conduire à la formation d'une étoile et forcément de son disque, parce que pas toute la matière tombe dans l'étoile, doit tomber aussi dans un disque. Alors on peut faire de la physique quantitative, la physique stellaire est extrêmement précise, c'est impressionnant, donc on peut calculer quelle masse doit avoir l'étoile pour pouvoir injecter suffisamment d'aluminium 26 dans les milieux interstellaires avant d'exploser en supernova. Donc, les différents tracés, donc quantité de matière éjectée en fonction du temps vient de la physique stellaire, elles sont des choses vraiment très précises. Ici, on fait juste la supposition que il faut savoir combien de matières l'étoile va contaminer. Donc ici, on fait une supposition que c'est à peu près une coquille de 1000 masses solaires qui va être contaminée par ces éjectats de wolf rayé. Alors ça, évidemment, c'est une supposition, on pourrait supposer moins ou plus, mais c'est un chiffre relativement raisonnable. Donc là, vous avez que selon la masse de l'étoile en masse solaire, vous avez ce qui se passe. Donc si l'étoile est petite, 20 masses solaires seulement, bon, elle va évoluer en wolf rayé, mais finalement, elle n'éjecte pas trop de matière. Et si vraiment elle doit contaminer une coquille de 1000 masses solaires, ben, elle n'y arrive pas. Il faut injecter autant quantité d'aluminium 26 et elle injecte beaucoup moins. Si vous avez une étoile de 25 masses solaires, elle devient beaucoup plus active, beaucoup plus efficace à éjecter la matière. On arrive presque à contaminer ce qu'on veut, la quantité qu'on veut, mais on explose en supernova avant. Donc là, quand les traits s'arrêtent, ça veut dire que l'étoile à la fin a explosé. Et ça s'exclut, parce que du coup, ce ne serait pas seulement l'aluminium 26 qui arrive, c'est le fer 60 aussi. Le fer 60 n'est pas arrivé. Donc là, encore, on l'exclut. Évidemment, si on veut contaminer moins, cette barre horizontale va descendre. Donc par exemple, si vous demandez 10 fois moins, vous vous demandez de contaminer 100 masses solaires au lieu de 1000 masses solaires, ces traits descendent en ordre de grandeur, ça va se retrouver là, et l'étoile de 25 masses solaires peut faire l'affaire. Si c'est vraiment ça, la quantité d'aluminium 26 dont on a besoin, il faut que l'étoile ait une trentaine de masses solaires ou plus pour injecter suffisamment d'aluminium 26 avant d'exploser comme supernova. Et donc, voilà, il y avait ça dans notre voisinage galactique quand le système solaire s'est formé, et un peu à l'origine de la formation d'effondrement qui a conduit à la formation du Soleil. Alors, quelle est la probabilité d'avoir une telle étoile si massive à proximité? Mais ça dépend de la masse du grand nuage moléculaire dans lequel les étoiles se forment. Si le nuage moléculaire est petit, il n'y a pas beaucoup d'étoiles qui se forment, elles ont toutes une faible masse. Donc évidemment, il n'y aura pas des étoiles de 30 masses solaires. Mais si, là, initialement, les nuages sont très gros, ben, il y a beaucoup de masse, il y a beaucoup d'étoiles qui se forment, dont certaines très massives, et donc il y a une certaine probabilité d'avoir des étoiles massives. Donc en étudiant les amas d'étoiles jeunes, on peut faire des statistiques, et donc on trouve, plusieurs auteurs l'ont fait, en trouvant des résultats assez comparables, que la probabilité qu'il y ait une étoile wolf rayé d'une trentaine de masses solaires, comme ça qu'il faut pour produire l'aluminium 26, voilà, est non négligeable, de l'ordre de 15%, si la masse stellaire contenait environ un millier d'étoiles. Voilà. Donc, nous, on s'est formé dans un amas stellaire d'environ un millier d'étoiles. Alors, quelle est l'allure d'un amas stellaire d'environ un millier d'étoiles? Vous sortez, s'il fait beau ce soir, vous regardez Orion, hein, c'est une constellation d'hiver. Dans l'espadon d'Orion, il y a une nébuleuse, Paris probablement on ne la voit pas, mais voilà, c'est la nébuleuse d'Orion. Et à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion, il y a un amas d'étoiles jeunes qu'on appelle les trapèzes. Donc ici, c'est un agrandissement. Et c'est un amas qui a tout à fait la densité qui correspond à un amas typique de 1000 étoiles. Et donc, ces considérations astrophysiques nous suggèrent que le Soleil s'est formé dans quelque chose d'équivalent du trapèze dans la nébuleuse d'Orion. Alors, cette formation à proximité d'une étoile massive évoluée nous explique, on pense, c'est une idée de Steve Dash, un ami, je suis très d'accord avec lui, sur cet aspect au moins, nous explique une singularité du système solaire, une de plus. Quand on observe les disques protoplanétaires autour des autres étoiles, souvent on voit que les disques accrètent encore de la matière interstellaire qui tombe sur les disques. Et on appelle ça le late streamer en anglais. Donc c'est un apport de matière tardif. Donc le disque est déjà assez âgé. Donc on est sorti de la phase toute initiale de l'étoile, ce qu'on appelle la classe 0, la classe 1. On est plutôt dans une phase d'un disque autour d'une étoile qui normalement a fini d'accréter. Mais il y a de la matière qui se balade dans les milieux interstellaires et paf, elle est capturée par l'étoile et tombe sous le disque. Et donc c'est un apport de matière nouvelle. Mais cette matière qui tombe sur les disques, vu qu'elle vient comme ça par hasard du milieu interstellaire, a un moment cinétique qui n'a rien à voir avec le moment cinétique du disque de départ. Donc c'est la matière qui va casser le disque, va le tordre, va le perturber très fortement parce que veut en fait la matière qui veut former un disque qui a une orientation différente. Et en fait après, donc ça, ces choses existent, on les observe, sont relativement fréquentes, et effectivement on observe même des systèmes planétaires qui sans doute se sont formés dans ces disques cassés. Parce qu'on voit des systèmes planétaires extrasolaires qui sont vraiment misalignés. Il y a les planètes internes qui sont sur un plan, les planètes externes sont sur un autre plan. On observe des disques divisés en deux, avec la partie interne qui fait une ombre sur la partie externe, etc. Et on pense que tout ça est vraiment dû à ces processus d'accrétion tardive sur les disques. Alors, est-ce que le système solaire a jamais connu quelque chose de ce type? Non, pour plusieurs raisons. Selon plusieurs lignes des preuves. Donc, d'abord, il n'y a pas de différence systématique dans les propriétés isotopiques entre les achondrites, qui encore une fois sont des échantillons des planétésimaux qui se forment tôt, et les chondrites, qui sont des échantillons des planétésimaux qui se forment tard. Donc, ça veut dire que c'est la même matière qui était à disposition des premiers planétésimaux et des derniers. Il n'y a pas eu de rajout de matière exotique entre les deux générations des planétésimaux. Alors, cette transition entre les. On a vu, bon, pour la dichotomie isotopique, la matière qui a été accrétée sur les disques a dû changer. Elle avait initialement. Les propriétés isotopiques des CAI, et après, qui est arrivé avec les propriétés isotopiques de la matière NC, mais cette transition a eu lieu très vite, moins de 100 000 ans, parce que déjà, lors des premiers planétésimaux, on voit cette dichotomie. Okay. Et donc, ça n'a pas été dû à un late streamer, que lui tombe sur les disques après quelques millions d'années. Et en plus, ces late streamers, quand ils arrivent, contaminent plutôt les disques externes. Mais on a vu que les CC, les planétésimaux CC, qui viennent de la partie externe du disque, la région des planètes géantes, sont en fait ceux qui ont les propriétés isotopiques les plus semblables au CAI, donc les plus semblables à la composition isotopique du Soleil. Donc en fait, c'est les disques externes, c'est les moins différents, c'est les moins exotiques, c'est plutôt les disques internes qui sont plus exotiques par rapport au Soleil. Et ça serait complètement l'inverse s'il y avait eu un late streamer, c'est les disques externes n'auraient rien à voir du point de vue isotopique avec le Soleil. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on observe dans les systèmes solaires. Et en plus, comme je disais, quand il y a un late streamer, le disque est cassé, forcément, il y a zéro probabilité que les nouveaux gaz arrivent avec les mêmes moments cinétiques, l'orientation du vecteur du moment cinétique que les disques préexistants. Or, notre système solaire est vraiment planaire. Donc, les 8 planètes et la ceinture de Kuiper froide, donc tout ce qui reste semblable aux orbites originelles, sont tous à quelques degrés près d'un plan unique. Et qui est orthogonal donc au moment cinétique du système. Et donc ça exclut tout désalignement du disque au moins jusqu'à 45 unités astronomiques. Donc voilà, c'est toutes les raisons pour penser que notre disque n'a jamais accrété de la matière du milieu interstellaire tardivement. Mais alors pourquoi ? Bizarre, hein ? On voit souvent les autres disques qui ont cet apport de matière des tardifs et pas nous. Eh bien, la réponse semble être encore une fois cette étoile de Wolf-Rayet, parce que une fois que l'étoile crée cette bulle crée cette couronne à haute densité où on peut générer des nouvelles étoiles, mais après la bulle continue à être en expansion et ces nouvelles étoiles et leurs disques se retrouvent dans la bulle. Et on l'observe encore une fois. Donc ça c'est une observation. Donc vous avez ici une zone, un amas stellaire, où il y a 20 étoiles massives du type O et des Wolf-Rayet. Vous avez ici la bulle, vous avez là, ce sont agrandis dans les carrés, des disques protoplanétaires autour d'étoiles jeunes et se retrouvent dans la bulle et donc sont complètement isolés du milieu interstellaire ambiant. Donc une fois qu'on est dans la bulle, évidemment, on n'accrète plus du gaz du milieu interstellaire ambiant, donc on reste isolé, on est protégé par cet apport tardif de matière. Donc voilà, on arrive assez bien à comprendre les toutes origines du système solaire et l'environnement galactique qui a caractérisé notre formation et tout ça grâce aux météorites. Donc pour conclure, quoi retenir? Donc l'histoire de la ceinture des astéroïdes est complexe. Donc les planétésimaux, le fait que les objets CC se soient formés dans la région des planètes géantes n'est pas du tout en contradiction avec le fait qu'aujourd'hui ils sont dans la ceinture des astéroïdes. Il y a des mécanismes d'injection et ces mécanismes d'injection, cette injection doit s'être faite à deux étapes. D'abord pour les premiers planétésimaux différenciés lors de la formation des planètes géantes et après à la formation des chondrites, parce que dès qu'une planétésimale se forme, il est plus lié à, elle est plus bloquée par les gaz. Donc, mais une fois dans la ceinture des astéroïdes, ces premiers objets qui se soient formés dans la ceinture des astéroïdes, soit ont été injectés depuis la région des planètes géantes dans la ceinture des astéroïdes, à un moment donné, il y a eu probablement un balayage de résonance séculaire qui a pris tout le monde et l'a placé dans la ceinture de la région des planètes telluriques. Et c'est là vraiment l'endroit, le seul endroit où on peut imaginer une très forte activité collisionnelle qui casse ces corps en profondeur. Et les chondrites, donc qui se forment tardivement à la disparition du gaz, se forment dans la ceinture des astéroïdes, dans la région des planètes telluriques, probablement les chondrites instatites, dans la région des planètes telluriques, probablement les chondrites instatites, dans la ceinture des astéroïdes, probablement les chondrites ordinaires, dans la région des planètes géantes, probablement les chondrites carbonées. Et lors de l'instabilité, on remélange un peu tout ça et ça permet de capturer en particulier les fragments de ces corps différenciés qui se sont cassés dans la région des planètes telluriques ainsi que certains objets transneptuniens. Donc on devrait avoir des véritables comètes aussi dans la ceinture des astéroïdes. Et pour ce qui concerne vraiment la toute origine, donc les systèmes solaires ne s'est pas formé à cause de l'explosion du supernova à proximité, ça je pense qu'on peut vraiment l'affirmer à cause de l'absence du fer 60. En revanche, il s'est probablement formé sur le bord d'une bulle créée par une étoile Wolf rayée. Et cette Wolf rayée nous a protégés de l'apport tardif des matières qui aurait fortement perturbé les disques et donc fortement perturbé les systèmes planétaires. Donc, si vous commencez à tordre le système planétaire, après les planètes deviennent excentriques, etc. Et les questions d'habitabilité suivent, parce qu'évidemment, pour être sur une planète habitable, on doit avoir une orbite quand même assez circulaire. Donc voilà, je termine pour vous rappelant que demain matin, il y a la dernière conférence de mon invité, David Nesvorny. Il va parler des objets géocroiseurs. Et donc, si vous êtes intéressé sur quelle est vraiment la probabilité d'une collision catastrophique avec la Terre, voilà, au-delà des fake news qu'on lit sur Internet, donc Armageddon, Don't Look Up, etc., ben voilà, il vous donnera des vraies réponses scientifiques sur les réels risques de la Terre par collision. Donc, ce sera demain à 10h30 dans la salle 2. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et vous donner rendez-vous l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, on parlera de la formation des planètes telluriques, dernier épisode de la formation du système solaire. Et ensuite, on passera enfin aux planètes extrasolaires dans 2 ans et 3 ans, etc. Donc, merci beaucoup pour votre attention.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.